RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est une idée géniale et généreuse proposée aux propriétaires qui ont un peu de place dans leur jardin d'installer une mini-maison autonome pour accueillir des réfugiés qui viennent d'obtenir leur statut. Au-delà de la dimension sociale de cette démarche, c'est aussi une autre façon de penser la ville, l'espace, le vivre ensemble. Alors comment ça marche exactement? Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Romain Minot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte et cofondateur du concept avec l'association 14 que vous avez fondée il y a une dizaine d'années. À vos côtés, Nadège Letellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Élan du SAMU Social et Dominique Blanc, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez accepté d'installer une mini-maison dans votre jardin. Vous allez nous expliquer votre motivation dans un instant. Mais tout d'abord, Romain Minot, expliquez-nous ce concept de IMBY, donc, puisque c'est le nom du projet, hein, l'acronyme de In My Backyard, qu'on pourrait traduire par dans mon arrière-cour ou dans mon petit jardin.
C'est ça. IMBY, le concept est né à l'antithèse de NIMBY. NIMBY en anglais, Not In My Backyard. Pour des gens qui sont plutôt avec une pensée réactionnaire et qui n'ont pas envie de voir près de chez eux s'installer des éoliennes, s'installer les infrastructures et plus généralement s'installer des personnes qu'ils ne connaissent pas.
Vous voulez dire par exemple les personnes dans le 16e arrondissement, un quartier chic de Paris, qui ne veulent pas voir s'installer justement un lieu d'accueil pour les migrants?
Par exemple, c'est un concept anglo-saxon au départ et nous on a voulu inverser la question en disant « in my backyard », des gens qui sont solidaires, qui ont effectivement envie d'œuvrer pour une société où l'on vit ensemble.
Alors comment ça marche ?
Alors, un couple, une famille ou une personne qui est propriétaire d'une maison avec son jardin dispose d'un espace qu'on peut prendre pour mettre une petite maison d'une vingtaine de mètres carrés, comme un studio, une pièce en plus dans son jardin, pour y héberger une ou plusieurs personnes réfugiées.
Voilà, alors donc le principe, c'est que tout est participatif, c'est-à-dire que le chantier est participatif, la maison est construite par des volontaires.
Exact. En fait, l'installation de la maison est faite dans un chantier participatif et qui est plus que participatif, il est pédagogique. C'est-à-dire qu'on forme les personnes à la construction écologique, sachant que c'est une petite maison qui est faite à la base avec des matériaux biosourcés, du bois, du carton pour l'isolation, et puis avec des principes d'architecture bioclimatique, à savoir une façade vitrée qui fait des apports solaires en hiver, qui permet de réchauffer un peu mieux la maison, qui est ventilé l'été.
Donc c'est une maison autonome.
C'est pas une maison autonome, on peut pas dire ça, puisqu'on n'a pas de génération d'énergie, on n'a pas de génération d'eau pluviale, par exemple. Par contre, on y travaille pour le moment.
Mais comment ça marche pour l'eau?
Pour l'eau, pour l'instant, l'adduction sur les réseaux et puis le rejet dans tout à l'égout, sachant qu'il y a aussi possibilité de mettre des toilettes sèches. Et puis c'est en discussion avec les hôtes, pour le coup, de savoir les meilleures conditions d'accueil.
Donc on implante une maison, enfin vous implantez avec les bénévoles, vous installez la maison dans le jardin.
Exact.
Pour une durée de combien de temps? C'est contractuel quand même.
C'est contractuel, effectivement. C'est pour une durée de 6 à 2 ans. On préfère faire des longues durées, quitte à accueillir plusieurs personnes. 6 mois à 2 ans, exact. Le but étant d'affirmer l'envie d'accueillir pour une longue durée.
Alors c'est ce que vous appelez une hospitalité constructive.
Exact. Terme dérivé d'occupation constructive. Dans mes jeunes années, j'étais plutôt dans les questions d'occupation, de friches ou d'espaces vacants. Effectivement, on a un patrimoine vacant à Paris qui est estimé à 30% des logements qui n'ont pas de personnes qui vivent dedans. Fort de ce concept-là, on s'est dit qu'il était intéressant d'occuper ce type d'espace, puisque ce type d'espace, en général, eh bien, croule quand il n'y a personne dedans. Et puis, dérivé de cette question d'occupation constructive est venue l'hospitalité constructive. Hospitalité, terme cher à Sébastien Thierry, un de nos collègues et amis du Pérou.
Alors, comment est-ce que vous avez eu cette idée?
Alors, au tout départ, on est sur des questions de précarité urbaine. On travaille pas mal avec des bidonvilles. Il existe encore des bidonvilles à Paris, un phénomène résurgent depuis une dizaine d'années. Et du coup, la question de la précarité et des personnes vivant dans des conditions de mal logement nous a fait penser à de l'accueil, non pas dans des centres d'hébergement, mais chez des personnes. C'est-à-dire que quand on accueille des migrants ou des personnes dans un centre d'hébergement, on a un phénomène de masse, de communauté qui se crée. Et là, on avait plutôt envie de faire en sorte que du lien social se fasse grâce à l'habitat.
D'où l'idée de mixité sociale.
Exactement.
Mais est-ce que l'espace est partout ou plutôt dans les quartiers favorisés ?
L'espace, on peut en trouver partout. Après, effectivement, là, on est sur du pavillonnaire. On pourrait imaginer dans 5 ans qu'on aille sur des toits. Il y a pas mal de toits-terrasses qui pourraient être envisagés. Ou voir dans des jardins de bâtiments collectifs.
Donc tout est possible, c'est en plein démarrage. Et il y a un accompagnement évidemment pour ces personnes, tant pour les accueillants que pour les réfugiés. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez, Nadège Le Tellier, avec le SAMU Social et le programme Élan. Alors expliquez-nous comment vous accompagnez ce programme IMBY.
Alors, au niveau du programme Élan, originellement, donc, on accompagne les particuliers qui souhaitent accueillir des personnes réfugiées chez elles. On les accompagne dans la démarche d'accueil. Donc, c'est un support pour les aider à réfléchir à leur projet d'accueil, à comprendre les limites, à comprendre les attentes de chacun. On accompagne également toutes les personnes réfugiées qui souhaitent intégrer le programme. Et au vu de ce qu'on sait des uns et des autres, on peut ensuite former les cohabitations les plus adaptées. L'objectif, c'est que les cohabitations marchent, que les personnes puissent s'entendre et vivre au quotidien ensemble. Donc dans ce cadre-là, on travaille avec IMBY sur ce projet. Et nous, on va être plus sur la recherche de la personne réfugiée à orienter à Charlotte et Dominique, le suivi de la cohabitation au long cours, et l'accompagnement professionnel de la personne réfugiée pour lui permettre de trouver un emploi et une solution de logement durable.
Parce que donc c'est ça le but, hein, c'est que les personnes restent finalement le moins longtemps possible.
Oui, qu'elles restent le moins longtemps possible, mais qu'elles puissent quand même se stabiliser pendant plusieurs mois pour mettre en œuvre toutes leurs démarches pour s'en sortir. Parce que si tous les soirs elles se demandent où elles vont devoir dormir et comment elles vont pouvoir manger, elles ne sont pas en capacité de pouvoir s'insérer pleinement.
Alors je le rappelle, ce programme est réservé aux réfugiés qui viennent d'obtenir leur statut, c'est pas ouvert à tout le monde, et vous avez du recul puisque ça fait un an qu'avec le SAMU Social et ce programme Élan, vous accompagnez des réfugiés qui sont donc pas dans ce programme IMBY, mais qui sont logés chez des personnes. Je crois que vous avez 33 réfugiés comme ça que vous suivez, qui vivent chez 33 familles.
Voilà.
Et vous me disiez en préparant cette émission, c'est un accélérateur d'intégration.
Clairement, oui. Oui. C'est un vrai facteur d'inclusion. Chacun, je pense, sort grandi de cette expérience. Hein. Autant les personnes qui accueillent, qui s'enrichissent vraiment de la découverte d'une autre culture, que les personnes réfugiées qui trouvent enfin une place dans la société qui les a accueillies. Elles ne sont pas isolées dans des centres d'hébergement ou dans d'autres types d'hébergement. Elles sont réellement accueillies au sein de familles. Et c'est la distinction entre l'hébergement et l'accueil. C'est que là, il y a une dimension humaine de partage. Les personnes réfugiées qui font partie, enfin, qui vivent au quotidien avec des familles, comprennent beaucoup plus rapidement le fonctionnement de la société. Elles progressent énormément en français et elles ont aussi un réseau, un étayage qui va leur permettre de se renarcissiser, de reprendre confiance en elles et de donner le maximum pour s'en sortir.
Se renarcissiser, ça c'est un joli verbe. Alors donc pour renarcissiser les réfugiés, il faut quand même, pour que ce programme IMBY fonctionne, des personnes qui soient prêtes à les accueillir. Donc c'est votre cas, Dominique Blanc, vous êtes porté candidat avec votre femme Charlotte pour accueillir donc des réfugiés dans votre jardin, dans cette mini-maison qui va bientôt être construite. Enfin, je crois que ça a démarré cette semaine. La grue est arrivée dans votre jardin. Alors, quelle est votre motivation? Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous étiez prêt à accueillir des réfugiés?
Je crois que pour moi, l'idée d'origine, elle remonte au plus fort de la crise syrienne. En tout cas, au plus fort de son passage dans les médias, si je peux dire. Parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est réglé, mais on en parle moins. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'était posé la question avec ma compagne de voir ce qu'on pourrait faire. Et en même temps, on était un petit peu désarmés parce que finalement, on ne sait pas comment on peut accueillir des gens qui sont dans des situations quelque part tellement éloignées de la nôtre, qui est installée et avec des ressources qui permettent de vivre très confortablement et face à des gens qui débarquent. Moi, je me rappelle être tombé sur quelqu'un dans un train en Allemagne qui arrivait de Syrie et qui était en transit et était en même temps visiblement complètement perdu, et il m'avait demandé un petit peu de le guider, et en même temps c'était quelqu'un, on voyait, qui était éduqué, qui avait une vraie richesse, mais malheureusement effectivement le contexte faisait que il avait certainement besoin d'accompagnement. En Allemagne, l'accueil des réfugiés, il a été très puissant ces dernières années, et donc je pense qu'il y avait des structures très fortes. Je crois que c'est pas tout à fait ce qu'on peut, on peut pas en dire tout à fait autant en France, malheureusement. Et donc, c'est vrai de se dire que nous, on pouvait faire quelque chose à notre petite échelle, c'était un vrai souhait. Après, la question, c'était comment on peut mettre ça en œuvre. Et donc, c'est là qu'est intervenu le projet IMBY, en arrivant finalement avec une solution un peu magique, puisque en même temps, nous qui bénéficions pas forcément d'une chambre chez nous pour héberger quelqu'un, puisqu'on a des jeunes enfants et puis la maison s'y prêtait pas vraiment, il y a la maison. On a un jardin, par contre.
Vous avez un grand jardin ?
On a un jardin qui est assez conséquent, et avec ce qui est déjà une chance en milieu urbain, et en plus on a une petite partie du jardin qui effectivement dont on servait pas, qui était un peu délaissée, on savait pas trop quoi en faire, et donc ça, c'était idéal de se dire tiens, là on pourrait avoir quelque chose pour accueillir quelqu'un. Et puis c'est pas qu'une cerise sur le gâteau, mais ce qui est vraiment à conforter notre démarche et qui a fait qu'on a réfléchi en tout et pour tout, je pense une demi-heure avec ma compagne avant de dire on y va, c'était l'accompagnement d'élan, puisque moi je me sens un petit peu peu compétent.
Le fait qu'il y ait un service social qui soit là à faire la médiation entre vous et les personnes qui vont venir chez vous, ça vous a rassuré en fait?
Absolument, gérer en même temps le gap culturel et puis l'accompagnement pour que ces personnes qui sont effectivement potentiellement déracinées, qui ont vécu des conditions qui ont pu être très durs, s'accordent avec nous et que ça se passe au mieux. C'est vrai que si on a une structure qui dit on sait faire, on l'a déjà fait et on va le faire ici, c'est...
Et vous savez déjà qui va venir habiter dans votre jardin et pour combien de temps ?
Alors, on ne sait pas encore exactement qui. C'est effectivement les gens du programme Élan qui sont en train de travailler là-dessus et qui vont nous proposer. On a défini quelques éléments qui seraient par exemple de pouvoir parler une langue commune, même si c'est pas ultra fluide, de pouvoir échanger quelques éléments, et ils nous confirmaient que c'était important parce que sinon ça peut créer des frustrations. Mais après, on n'a aucune idée finalement d'où viendront ces gens.
Mais peu vous importe, ce qui compte c'est la démarche.
Oui, absolument. On s'est effectivement engagé pour 2 ans avec IMBY, l'idée étant qu'il y ait potentiellement plusieurs un roulement avec plusieurs personnes, ce qui serait une grande réussite. Ça voudrait dire qu'effectivement les gens arrivent à se réinsérer assez vite, et de toute façon ça dure au plus 1 an pour chaque personne qui est accueillie, donc il y a effectivement cette quelque part cette volonté et cette obligation de réussir assez rapidement, tout en s'étant un petit peu le temps.
Nadège Letellier, j'imagine que c'est important pour vous de matcher, comme on dit, les couples entre les réfugiés, les familles. Dominique Blanc disait qu'en fait, il ne savait pas encore qui allait venir dans son, dans son jardin. Vous le savez peut-être, ou en tout cas c'est
alors,
en cours.
On a trouvé une des deux personnes réfugiées. Alors par contre, je n'utiliserai pas le terme matcher, parce que je trouve que c'est un peu trop mathématique. Je parlerai plus d'apparrainage, parce que la position des accueillants est un peu comme celle de la position d'un parrain, quelque part. Et puis c'est beaucoup plus joli.
Ouais, d'accord. c'est vrai que ce terme était peut-être un petit peu brut. Romain Minot, c'est exactement à ce type d'expérience que vous vouliez arriver. Enfin là, c'est le début, mais on n'est pas dans le concret. Mais en tout cas, ça prend la route de ce que vous aviez imaginé.
Tout à fait. Je pense que le partenariat avec Élan est une très bonne chose. Je pense que le suivi qui est opéré à la fois en amont et puis on verra en aval est tout à fait dans la ligne des projets qu'on porte avec l'association 14.
Mais quand vous entendez Dominique témoigner comme ça, vous vous dites ça y est, c'est concret.
Bah, tout à fait. Je crois que la rencontre avec Dominique et puis avec sa femme Charlotte et leurs enfants a depuis le départ conforté l'ensemble de l'association et des personnes qui travaillent sur ce projet dans l'idée qu'on va pouvoir en faire beaucoup d'autres.
Alors justement, c'est la question. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes prêtes à s'engager comme vous ? On en parle juste après une pause musicale.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Sur RFI, vous avez bien raison, nous parlons du projet IMBY, imaginé par l'association d'architectes 14, un programme qui consiste à accueillir des réfugiés dans son jardin en installant une mini-maison, une tiny house. Ce programme démarre tout juste, Romain Minot, à Paris et aux alentours. Alors, combien de volontaires avez-vous, en plus de Dominique Blanc et de sa femme, aujourd'hui ? Est-ce que ça commence petit à petit à se faire connaître?
Oui, c'est le tout début. Il y a eu quelques articles de presse et avec ces quelques articles de presse, on a déjà une trentaine de personnes qui nous ont demandé si c'était possible d'accueillir demain des personnes réfugiées chez elles. Donc je pense que le programme est voué à grandir après. Voilà.
Oui, mais c'est encourageant. Nadège Letellier, le besoin est important?
Ah oui. Le besoin est extrêmement important. Des candidatures de personnes réfugiées, on en a des tas. Mais c'est vrai que les propositions d'accueil manquent encore, même s'il y en a. Hein. Je pense que c'est compliqué aussi pour quelqu'un qui souhaite accueillir de savoir vers quelle association se tourner. Donc c'est important aussi que ce type de programme puissent gagner en visibilité auprès du grand public.
Et comment les réfugiés réagissent à ce concept ? Est-ce qu'ils sont candidats ?
Pas tous. Certains sont très enthousiastes à l'idée de partager la vie d'une famille française, de découvrir une autre culture. Et on a d'autres personnes qui sont quand même plus réfractaires, notamment les femmes, on le voit, c'est compliqué pour elles de se dire qu'elles vont être hébergées par des personnes qu'elles ne connaissent pas. La question d'une possible effraction ou d'une intimité, voilà, qui serait mise à mal.
Là, pour le coup, avec le concept IMBY, comme la personne n'est pas au sein même de la famille, mais dans le jardin, peut-être ça peut rassurer ?
Ça peut rassurer, sauf qu'il faut qu'on puisse trouver deux femmes réfugiées qui acceptent de cohabiter.
Oui, parce que l'idée, c'est de mettre deux réfugiés par maison. Oui. Alors, quels sont les profils des réfugiés qui vont entrer dans ce programme ?
À l'heure actuelle, on a majoritairement des jeunes. On a la moitié des personnes accueillies qui ont moins de 25 ans. Et le plus âgé a 38 ans, donc c'est un public quand même relativement jeune. Ils sont majoritairement originaires du Soudan, d'Afghanistan, du Tibet. On a des Somaliens également, des Érythréens, des Congolais, Kinshasa.
Alors Romain Minot, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est aussi la mixité sociale qui crée dans la ville. Hein. Ça, c'est un peu votre ADN à l'association 14 et c'est ce qui nous intéressait aussi dans cette émission d'environnement. Quelle est la philosophie derrière ?
La question est d'arriver à faire des quartiers qui soient des quartiers avec toutes les classes sociales et puis avec toutes les provenances. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une vie métropolitaine qui gagne globalement sur l'ensemble de la planète. Et on arrivera à faire des villes qui fonctionnent bien que si on sort de l'idée de faire des barrières et des ghettos, qu'ils soient des ghettos de riches ou des ghettos de pauvres.
Oui, je cite votre site internet, hein, vous dites qu'il faut avoir une approche de l'architecture sociale et solidaire et une approche de la ville agile et résiliente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, hein, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Mais donc, il faut faire en sorte, selon vous, pour avoir une ville durable, garantir cette mixité. C'est une condition essentielle ?
C'est une condition sine qua non. Je pense que la question de l'environnement, effectivement, comprend la question sociale. Et si on n'arrive pas à travailler cette question sociale avec des bonnes bases, on n'arrivera pas à faire des villes durables.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que les villes se construisent. Il y a des quartiers riches, il y a des quartiers pauvres. Les bidonvilles sont souvent en périphérie.
Il y a des bidonvilles aussi à l'intérieur de la ville qu'on invisibilise, mais ils existent. Il y a aussi de la mixité sociale dont on ne parle pas forcément, mais qui existe. Dans le 16e, il y a aussi pas mal de pauvres qui habitent dans les chambres de bonne, certes, mais il y a quand même des pauvres.
Le 16e arrondissement de Paris, qui est l'un des arrondissements les plus chics.
Hein ? Effectivement. Non, je pense que l'idée plutôt de penser la ville de cette manière est une idée politique dans le sens où... En tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, en tant que personne qui font du suivi social, il s'agit de mettre à profit nos compétences pour arriver à faire ce type de ville qui, selon nous et selon beaucoup d'autres, est la seule qui puisse survivre.
Oui, parce qu'on pourrait imaginer le projet aussi en zone rurale, en se disant que c'est dans les zones rurales qu'il y a plus d'espace. Mais après, j'imagine, Nadège Le Tellier, que ça serait un frein à l'intégration des réfugiés.
Bah effectivement, l'accessibilité au lieu de résidence est extrêmement importante parce que les personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, ont toutes obtenu un statut de réfugié. Elles sont dans des démarches d'insertion pour s'en sortir. Donc si elles sont excentrées des transports en commun, de fait, ça risque d'être extrêmement compliqué pour elles pour trouver des solutions durables.
Dominique Blanc, est-ce que vous rejoignez le discours de Romain Minot ? Est-ce qu'en accueillant des réfugiés dans votre jardin, vous avez l'impression de faire un acte politique, un acte de mixité sociale ?
Je trouve le terme un peu fort. Maintenant, c'est vrai que nous, on vit dans la petite ceinture de Paris et on voit que ça bouge beaucoup.
Il y a
beaucoup de bétonisation, une gentrification aussi de la ville en particulier, mais de toutes les banlieues proches, je pense. Et donc, effectivement, on se pose forcément la question, d'autant plus qu'on participe un peu de cette gentrification, de comment on peut garder un certain équilibre.
Gentrification, ça veut dire un peu tout le monde de la même classe sociale au même endroit.
Voilà, des gens un peu plus riches qui arrivent dans des zones qui étaient jusqu'ici assez populaires et qui, du coup, ont tendance, par des effets de spéculation immobilière tout très simples, à pousser ceux qui sont plus populaires plus loin en banlieue. Et donc, effectivement, d'arriver à garder, via une identification un peu alternative, différents types de populations, par exemple à Montreuil, ça semble vraiment important. Après, nous, on le fait à notre petite échelle et par rapport au programme, enfin, moi, je trouve que c'est une alternative, mais à des choses qui existent déjà. Les gens qui peuvent accueillir quelqu'un chez eux, je trouve ça encore plus fort. Mmh. Maintenant, c'est vrai que pour des gens qui auraient un petit bout de terrain de libre, avoir cette maison qui, en taille, on peut comparer ça à une grosse caravane, voilà, d'avoir une jolie caravane, en l'occurrence, beaucoup plus jolie, dans son jardin, et de pouvoir créer ce lien-là social, oui, c'est effectivement une forme d'engagement.
Et est-ce que la municipalité s'implique ?
Pour le moment, on n'a pas encore énormément eu de contact avec eux.
C'est vraiment individuel, c'est une démarche individuelle, mais vous n'avez pas besoin d'un permis de construire
ou après il y a des démarches administratives, mais ce n'est pas forcément évident aussi pour la mairie de s'impliquer dans ce genre de programme. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème que ce soit entre guillemets neutre.
D'accord.
On fait les démarches qu'il faut faire et puis on accueille les gens comme le programme nous le permet.
Et vos voisins, comment ont-ils réagi à l'arrivée de la grue ?
Globalement, un peu comme tous nos amis, super bien. Tout le monde trouve que c'est un très beau projet. Et puis à l'arrivée de la grue, bah, y a plus des questions de comment ça va se passer. Mais globalement, je crois qu'on peut dire qu'on a des super voisins.
Bah écoutez,
aussi sur ce plan-là.
À suivre, donc cette aventure est à suivre et on vous réinvitera, je ne sais pas, dans un an pour faire un point ou dans 6 mois pour voir où en est l'aventure, comment elle évolue. Aventure donc humaine, sociale et donc environnementale, on l'a bien compris, puisqu'il s'agit aussi de mixer les espaces. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les coordonnées sur la page de l'émission. Tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi réécouter les émission si vous voulez bien comprendre comment ça marche et éventuellement être candidat à l'accueil. Réécoutez l'émission en podcast sur RFI.fr. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.